Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques temps, on parle du fait que l'homme, il réagit avec conscience, mais très souvent, il a des choses, il a le subconscient qui, en fait, pas très souvent, c'est évident, il y a le subconscient qui est très présent chez nous. Parfois, on réagit sans savoir pourquoi. Alors là aussi, il y a plusieurs niveaux, ça veut dire qu'est-ce que c'est le subconscient. Il y a le subconscient qu'on peut dire que c'est proche, comme quelqu'un qui réagit lorsqu'il conduit une voiture et d'un coup il fait un acte non réfléchi, mais parce qu'il a l'habitude, donc il n'a pas besoin de penser « maintenant je vais à droite ou je vais à gauche ». C'est la subconfiance qui réagit, mais c'est quelque chose qui était travaillé déjà en lui, il a déjà enregistré en lui des choses, donc maintenant il réagit par rapport à ce qui est déjà enregistré chez lui. Mais il y a une autre notion de subconscience qui est beaucoup plus profonde, et là aussi il y a plusieurs niveaux, mais on a parlé récemment dans cette émission que souvent, quand quelqu'un a un problème, il ne sait pas d'où vient le problème. Donc il y a des méthodes psychologiques qu'on cherche parfois dans les périodes éloignées, ce qui s'est passé, on essaie de les libérer de ces moments, et à ce moment-là, la personne, elle est mieux. Mais il y a encore plus loin, on sait qu'il y a l'âme, que cette âme, elle n'a jamais exprimé d'une façon claire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé des moments difficiles dans leur jeune âge ou bien dans l'âge plus avant cette période où on essaie de développer, de chercher. Et donc, il y a une conséquence beaucoup plus tard, mais c'était un moment qui était... il a vécu ce moment. Mais il y a aussi dans notre subconscience cette période qu'on n'a jamais connue, elle n'a jamais exprimé. Donc il y a notre âme qui essaie de s'exprimer, mais il n'y a personne pour la révéler. Ça veut dire qu'on ne comprend pas, et donc à ce moment-là, ça crée un conflit entre ce qu'on veut être. Et on n'est même pas au courant de ce qu'on veut être, ce que notre âme veut et ce que nous sommes. Alors là aussi, il y a plusieurs niveaux, et ça dépend aussi d'autres choses. Mais il y a dans le monde psychologique, il y a beaucoup, dans la Torah, c'est sûr qu'il y a beaucoup. On peut dire que la Torah, elle parle tout le temps de ça, quelque part. On va revenir à ça. Il y a une histoire chassidique, on dit, c'est plutôt une parabole, peut-être que c'est vraiment existé. Un homme qui allait d'un endroit à l'autre, et sur la route, il a passé par deux chemins où il y avait un berger. Et les bergers à l'époque, même aujourd'hui, peut-être ils ont passé leur temps à jouer dans le flûte. Et donc il a joué quelque chose, d'ailleurs il y a beaucoup de chants chassidiques, qui sont à la base de ces gens, parce qu'ils ont été des gens assez tranquilles, ils ont été très... Aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'occuper de nous-mêmes, on est tout le temps attaché au monde extérieur, on est tout le temps attaché à savoir qu'est-ce qui se passe, peut-être j'ai raté quelque chose ces dernières minutes, je ne suis pas au courant de nouvelles ou bien d'autres choses. À l'époque, ce n'était pas le cas, à l'époque, les gens, ils sont... approfondis dans leurs idées, dans leurs vies. Donc, il y avait une profondeur. Donc, il y avait ces bergers qui chantaient, en fait, qui jouaient un chant magnifique, très profond. Et ce tzaddik, cet homme qui était aussi profond, mais un homme juif, religieux, chassid, tzaddik, donc d'un certain niveau spirituel, il a senti qu'il y a quelque chose dans ses chants, une profondeur dans ses chants, mais il a écouté, il était émerveillé, et il a continué son chemin. Mais depuis, ses chants, il a dérangé beaucoup. Il a cherché ses chants, ça lui manquait. Donc il avait l'habitude de voir des bergers comme ça, et il a demandé, je vais vous payer, mais s'il vous plaît, chantez-moi quelque chose, jouez-moi quelque chose. Comme ils ont eu l'habitude de jouer, donc alors cette personne, il a dit, c'est magnifique, mais c'est pas ça que je cherche. Donc comme ça, des années après des années, il cherche, il trouve quelque chose, mais c'est pas ça qu'il cherche. Et donc ça, c'était un exemple, un parabole pour notre âme, que notre âme, elle cherche quelque chose, on essaye de la satisfaire par telle et telle chose, mais finalement, elle reste parfois soif. Parfois non, ça dépend si on arrive, mais normalement, elle reste soif. Alors, dans notre vie, vue par la Torah, il y a deux vies. Il y a la vie matérielle, il y a la vie spirituelle, et il y a un lien entre les deux. Et quelque part, la Torah, elle fait le lien entre matériel et spirituel. Aujourd'hui, donc, si l'émission va passer aujourd'hui, si vous allez écouter, donc, on est le jeudi, ce qu'on appelle dans le monde hébraïque, Chai Elul, donc le 18 du mois d'Elul, et en même temps c'est le 11 septembre, il y a une date à retenir, bien sûr, que c'est le. On manifeste quelque part, ou bien c'est la date d'anniversaire de deux grands personnages qui éclairaient le monde juif, à tel point qu'on l'appelle le grand luminaire. On va commencer par le premier, celui qui s'appelait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a vécu, il est né, donc il y a 227 ans, dans la région qu'aujourd'hui c'est entre la Russie, l'Ukraine et la Pologne, quelque part là-bas. Je pense que c'est plutôt l'Ukraine. Et la Biélorussie, en fait, dans la région là-bas. Et on l'appelle le grand luminaire. Il a éclairé le judaïsme par le chassidisme. Et c'était une période, surtout, une période très difficile. C'était après, malheureusement, les Juifs qui les ont passé des massacres, il y en a beaucoup, il y en avait beaucoup. Mais c'était une période très très difficile avec les différents massacres, surtout des massacres très très graves qui se sont passés. D'ailleurs, dans les années 1000, si je dis bien, 1909, dans les années 1000, pardon, 1708 et 1907, c'était des années très très difficiles et il y avait beaucoup qui changeaient. Donc à ce moment-là, la communauté juive, puisque pour vivre, ils se sont été éparpillés un petit peu dans les villes et les villages, et comme ça, ils ont gagné leur vie. Mais maintenant, il y avait beaucoup qui étaient obligés d'aller vers les villes pour se réunir. Et ça blessait beaucoup la communauté. Tout d'abord, parce qu'on était obligé de quitter, de ne pas rester là où on avait l'habitude, là où on a grandi, pour se réunir, comme on a dit, parce que c'était dangereux d'être un juif ou plus, quelques juifs isolés par-ci et par-là. Et deuxièmement, il n'y avait pas assez de travail dans les villes pour tout le monde. Donc d'un coup, il y avait beaucoup de pauvreté, les gens étaient obligés de faire n'importe quoi pour garder, pour vivre leur vie, pour pouvoir gagner quelque chose. Donc ça crée aussi beaucoup d'ignorance, puisque les gens, ils ont travaillé depuis n'importe quel âge. Alors, dans la communauté juive, il y avait d'un coup, quelque part, deux communautés. Les gens ignorants et les gens qui étaient érudits. Et il y avait aussi les gens riches et les gens pauvres. Et il y avait un écart Mais surtout, il y avait une sorte de pessimisme. Les gens étaient très croyants, mais en même temps, il y avait une sorte de découragement. Et à cette époque est venu le Baal Shem Tov, et il a mis un ordre dans cette notion. Il a beaucoup changé le monde, il a créé le monde. Tout d'abord, il a commencé par le fait qu'il allait d'un endroit à l'autre. Il a encouragé les gens, ils ont développé la croyance qui était déjà de toute façon là, mais elle était un petit peu éteinte. Pas au niveau pratique, les gens étaient très pratiquants à tous, mais seulement il manquait quelque chose, il manquait de joie, il manquait d'optimisme, il manquait de la foi, et lui il a amené tout ça. Donc quelque part il a enflammé beaucoup d'espoir, de la foi et de la joie dans la communauté. Et ensuite, en même temps, c'est vrai que l'écart était là, il arrivait à stopper l'écart, et comme il est marqué dans les différents livres, d'ailleurs avec le Baal Shem Tov. Alors, ce Baal Shem Tov, il s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est Baal Shem Tov, lui-même, il était un grand érudit. Il était un géant dans l'étude, un géant dans tous les domaines. Et pourtant, il s'occupait des petites personnes. Et ça, c'était son occupation peut-être principale. Il a donné une importance aux gens simples. Il a parlé que la simplicité, comment la simplicité, c'est quelque chose de très important. Donc lui, il avait des élèves qui étaient très érudits, des très très grands, mais quelque part il avait deux écoles. L'école pour les grands où il avait ses élèves qui l'enseignaient. C'était eux-mêmes qui étaient des grands érudits qui enseignaient aux autres, mais lui, il a enseigné à ses élèves qui étaient des grands. Et eux, ils ont enseigné aux autres et ils ont continué dans le chemin de Baal Shem Tov de s'occuper des gens simples. Et en même temps, donc, les gens érudits, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait certainement, mais la majorité de son occupation, comme on a dit, c'était avec les gens simples. Il a développé les notions et il a enflammé la confiance, comme on a dit, la foi et la joie. Donc, la joie, c'est quelque chose qui, parfois, on n'a pas accès. On peut faire des choses, mais il nous manque la joie. Pourquoi il nous manque la joie? On fait les choses parce qu'on est obligé de faire les choses, mais il y a un écart entre ce qu'on fait et c'est comme si on va dire qu'il y a un écart entre la matérialité et la spiritualité. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, il y a un écart entre ce que je fais et ce que j'aime. Et dans le judaïsme, on veut, même si, comme on voit partout, l'essentiel c'est l'acte, même si qu'il me manque la spiritualité dans l'acte, mais c'est ça l'essentiel, l'acte. On est dans un monde matériel où finalement ce qui compte c'est l'acte. Je ne sais pas comment le téléphone fonctionne, mais je ne sais pas comment ça marche, mais je l'utilise quand même. Je ne sais pas comment la voiture elle marche exactement, mais je l'utilise quand même. Et comme ça, la majorité des gens aujourd'hui, ils utilisent des choses sans savoir comment ça marche, mais on est dans un monde actif. On n'est pas, c'est pas ça le plus important, de savoir pourquoi. Ce qui est important, c'est savoir comment. Et finalement, le faire, finalement, l'activer. Alors, puisqu'on était dans cette période qui manquait de la foi, il manquait l'âme. L'âme juive n'était pas aussi éclairée que ça, et l'âme générale. Alors à ce moment-là, il a travaillé à révéler l'âme dans le corps, et donc d'un coup il y avait la foi, et d'un coup il y avait la joie. Et cette notion, il a fait sur la communauté juive, mais en même temps, ça crée une dynamique dans les habitations partout où les Juifs ils ont habité. Comme on raconte dans les livres, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Les Mémoires des Rabbis précédents qui raconte la vie il y a 300 ans avec beaucoup de détails. Ça veut dire qu'il dessine vraiment la vie à l'époque, la vie chassidique, la vie juive. En fait, la vie chassidique, c'était tout au début, mais la vie juive, ce livre s'appelle Les Mémoires des Rabbis Schneorson, il me semble. Donc, comment le Baal Shem Tov, donc, il a amené la joie dans la communauté et la foi, et donc, il a révélé la spiritualité, et comment, finalement, ça débordait quelque part le lien entre La communauté, ceux qu'ils ont habité autour d'eux, la communauté en général. Il raconte là-bas, par exemple, sur un monsieur qui s'appelait Wolf. Et que ce monsieur Wolf, comment tout le monde l'aimait, on l'appelait Wolf Cadabra, je pense, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en russe, mais ça veut dire les beaux, le gentil Wolf. En fait, c'était les gens qui ont vécu, qui ont eu une joie de vie, et ça développait au dehors de leur propre endroit très limité. Alors ça, c'était le Baal Shem Tov. Et là, on va arriver à notre paracha. Dans notre paracha, on lit la paracha presque à la fin de la Torah, la paracha qui s'appelle la paracha de Kitavo. Dans cette paracha, il y a beaucoup de choses, mais le début, on parle d'une loi. Il y a la loi de lorsque la Torah elle commence comme ça, lorsque tu vas venir dans la terre qu'Hachem t'a promis, donc la terre d'Israël, et tu vas t'installer là-bas, et tu vas... tu vas t'installer là-bas. À ce moment-là, il y a la mitzvah des promesses. Ça veut dire que lorsqu'il y a des premiers fruits, surtout les sept fruits d'Israël, que la terre d'Israël était honorifiée par ces fruits, comme il est marqué dans la Torah, sept fruits. Donc, alors, les premiers, il faut amener dans l'endroit où Hachem, Dieu il va choisir, donc Jérusalem, il y a toute une cérémonie que la personne qu'il vient pour remercier Dieu pour le fruit qu'il a donné, une cérémonie à ce qu'il dit, à tout un discours devant tout le monde. D'ailleurs, c'est très, très étonnant que tout s'arrête et on écoute cet individu qui vient avec ses paniers de fruits. Mais ça, c'est la loi. Ensuite, il y a l'idée spirituelle qu'il y a derrière, parce qu'on sait que chaque chose, comme on a dit, la Torah nous parle de l'idée pratique. Il faut faire ça, il faut faire ça. On n'a pas souvent l'explication de ce qu'il y a derrière, mais on sait que derrière toutes ces idées, toutes ces lois, il y a beaucoup des étages des explications. Ça ne veut dire pas seulement qu'il y a une explication, il y a des explications, il y a beaucoup des étages d'explications. En tout cas, alors, il y avait un Shabbat où le Baal Shem Tov, il a fait un discours. Donc, il a expliqué ce verset un petit peu différemment. Il dit comme ça. Eretz, ça veut dire la terre. Mais dans le mot Eretz, ça veut dire aussi, on entend deux choses. La notion de ratson, volonté, et la notion de merutza, ça veut dire courir. Normalement, ça va ensemble. Quelqu'un qui a la volonté, il court. Mais lui, il a expliqué un petit peu différemment, puisqu'on a dit que chaque chose dans la Torah, il y a plusieurs étages d'explication. Nous, on se sert de niveau bas, mais il y a plusieurs étages qui, en vérité, la Torah, elle est vraie ici, mais elle est vraie dans un monde spirituel aussi, seulement que là-bas, on le voit autrement. Mais en tout cas, l'explication que lui, il expliquait, comme ça, que lorsque tu vas dans la terre, ça veut dire quand tu auras la volonté, tu dois installer la volonté. Si on traduit ça en mots simples, de ce qu'on est en train de voir récemment, c'est que parfois on a la volonté, mais on ne sait pas quoi faire avec cette volonté. À partir de là, quand on a la volonté, on n'installe pas la volonté, ça reste quelque chose de flou. Il peut y avoir des choses négatives. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'exprimer, donc ils s'expriment mal, donc il y a une catastrophe. Alors il dit comme ça, lorsque tu as une volonté, on parle ici de bonnes volontés, pas de mauvaises volontés. Alors lorsque tu as une volonté, il faut que tu l'installes, comme ça il explique. Et ensuite il y a cette image qu'on doit prendre les fruits et mettre dans un récipient. Ce récipient, dans la Torah, on l'appelle « tene », on va revenir. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre ses volontés dans un récipient. Ça veut dire quoi au niveau spirituel? Ça veut dire que la volonté, c'est une bonne chose. On a des grandes idées parfois. Mais la Torah nous apprend à mettre toutes ces grandes idées dans les actes, dans les pratiques. Et dans les pratiques très, quelque part, carrées, limitées. Parce qu'on est dans un monde matériel. Quelqu'un qui, là, comme on dit parfois, il a Il y a cette expression en français qu'on a les yeux plus grands que le ventre. Il y a parfois un écart entre la volonté et l'acte. Donc il faut savoir mettre la volonté dans un acte. Et sinon, ça peut être une catastrophe. Alors encore, on ne parle pas d'une mauvaise volonté. Et parfois, le fait que je n'arrive pas à exprimer ma volonté comme il faut, donc ça peut être quelque chose de très très négatif. Et là, on rentre dans un autre sujet kabbalistique, ce qui s'appelle Shvirat HaKelim. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas assez de récipients pour de grandes lumières, ça peut être une catastrophe. Négative s'expliquait dans la Kabbale cette notion négative. En tout cas, là, on sait très bien que, on peut dire comme ça, un enfant qui a beaucoup d'énergie, il faut savoir comment on met l'énergie dans quelque chose, dans un récipient. Si on ne sait pas, si on ne sait pas maîtriser d'une part la volonté, maîtriser, c'est pas forcément. Et ça veut dire savoir mettre ses énergies dans de bonnes conditions, dans de bons récipients. Alors, à ce moment-là, ça peut être une catastrophe. Donc, alors là, on revient à notre sujet dans la paracha. Donc, il est marqué, comme ça explique le Baal Shem Tov, que lorsque tu auras la volonté, tu dois l'installer. Installer, ça veut dire que cette volonté, elle va être quelque chose qui est installé, qui est stable. Et comment on le met en pratique, que ce soit stable, c'est lorsque je mets dans des récipients, ça veut dire dans des choses pratiques, je l'utilise. Si je reste avec ma volonté, je ne l'utilise pas, alors comme on a dit tout à l'heure, ça peut être une catastrophe. Maintenant, il y a encore une remarque intéressante, que c'est marqué dans les livres, puisqu'on sait que dans le judaïsme, tout est exact. On a dit que le récipient que la Torah utilise, on dit qu'il faut mettre le fruit dans le récipient, alors on utilise le mot « tene ». Tene, c'est un mot assez rare. On ne l'utilise pas dans l'hébreu moderne. Il me semble, je ne vois pas qu'on utilise ces mots. Peut-être très rare. On dit récipient. Mais dans la Torah, il y a marqué tene. Si la Torah utilise ce terme qui est rare, il y a certainement une raison. Alors, parmi les raisons qu'il est marqué, donc là, ça nous mène encore une fois dans un autre sphère, dans un autre étage. On dit comme ça que tene, c'est l'initiel des mots « Tamim nekudot otiot ». Ça veut dire, là aussi, c'est un exemple de quelque chose que je mets dans un récipient, mais c'est un récipient pas matériel, c'est un récipient autre. Ça veut dire comme ça, comment, si j'ai une idée, je veux dire cette idée. Alors, il faut le mettre dans des mots. Si je n'arrive pas à dire dans des mots, c'est exactement comme l'exemple qu'il y a quelqu'un qui a la volonté, mais il n'arrive pas à les mettre dans. Il n'arrive pas à s'exprimer, à ce moment-là, ça crée des choses très négatives. Donc, pour s'exprimer, il faut savoir les mettre sur des lettres. Donc, ça, c'est le mot otiot en hébreu. Ot, ça veut dire lettre. Mais les lettres sol, en hébreu, on sait qu'il y a une différence entre les lettres et les voyelles. Si en français, on a les voyelles qui font partie des lettres, en hébreu, une partie des voyelles, elles sont à part. Parfois, dans les livres normalement, il n'y a pas de voyelles. Il faut imaginer les voyelles. Donc, je lis, je sais de quoi s'agit, donc je sais comment lire. Parfois, il arrive que j'ai un doute, mais normalement, il n'y a pas de voyelles. Donc, les voyelles, il faut imaginer. Mais dans l'idée, il y a les voyelles. Donc, il y a les mots. Les mots sol, ça ne suffit pas parce que c'est pas parfait. Donc il y a les voyelles. Comment on lit les mots? Parce qu'il y a deux mots qui ressemblent. On l'écrit pareil, mais c'est deux choses à part. Donc on a besoin des voyelles pour définir. Mais pas toujours les voyelles, ça suffit pour exprimer mon idée, ma volonté. Il faut aussi des théamim. Théamim, ça veut dire quelque part la façon comment je le chante. Alors, ça c'est très souvent, si vous avez été dans une synagogue, vous avez vu qu'il y a ce qui s'appelle comment on chante la paracha. C'est pas seulement comment on chante la Torah. C'est pas seulement pour faire beau, pour chanter. Il y a une signification. Et parfois, il y a les commentaires de Rashi qui expliquent que je sais que ce mot va dire ça et ça ne va pas dire ça parce qu'on le chante de telle manière. Ça veut dire la façon comment on le chante, ça exprime mieux le sujet. Donc, alors, pour exprimer quelque chose, on a besoin de trois choses. On a besoin des lettres, donc des mots. On a besoin des voyelles. Et on a besoin de tamim, ça veut dire la façon comment on le chante. C'est tam, c'est aussi, ça donne des goûts, en fait, c'est quelque chose, ça. Alors, à ce moment-là, c'est un récipient parfait. Autrement dit, c'est la même idée. J'ai une idée, j'ai une volonté, j'ai quelque chose que j'arrive pas à... Je garde en moi et je l'exprime par des mots. Alors, ça peut être des mots que je sors de ma bouche, mais ça peut être des mots que j'écris. Il y a d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Pekei Avot, il est marqué là-bas « Ukne lecha chaver ». Ça veut dire qu'il faut que chacun aura un ami. Et si on n'a pas d'amis, il faut même parfois payer pour avoir un ami. Okay. Il faut définir et développer cette idée. Mais il y a une autre lecture. Il y a le rabbi de Chabad qui disait, je ne me rappelle pas quel rabbi, qui disait « Ukne lecha chaver ». Kne, aujourd'hui on écrit avec un stylo, à l'époque il y avait, c'était comme, bien, c'était, oui, c'était une sorte de stylo qu'on devrait tromper, écrire. Alors il dit qu'il faut que le stylo il soit ton ami. Parce qu'il faut savoir exprimer tes idées. C'est ton ami, ça veut dire que grâce à lui, tu t'exprimes. Alors si on revient à notre sujet, c'est que la Torah nous dit qu'il faut savoir, il faut savoir exprimer notre intérieur. Et c'est ça l'idée de la parasha, il faut savoir exprimer notre intérieur. Lorsque tu rentres dans cette volonté, dans cette terre, alors il faut le mettre dans des récipients. Alors, on a parlé tout à l'heure de Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov il était dans une période où les gens ils ont fait des actes, ils ont été croyants, mais il manquait quelque chose, il manquait la spiritualité, la joie de vie. Et lui, avec ce qu'il a fait, il a amené la joie de vie. Et 47 ans après, le même jour, donc encore le 18 Elul, il y a un autre qui est né, que c'était le premier Rabbi de Chabad, c'était l'élève d'élève de Baal Shem Tov. Lui, il a continué dans le chemin de Baal Shem Tov, seulement que lui, il a mis un petit peu plus. C'était une période qui était déjà mieux, c'était déjà une période où les gens étaient, ils ont, après quand même presque 40 années ou 30 années de travail, et la joie de vie est revenue, la foi était développée, et cette fois-ci, dans le judaïsme, on ne reste pas dans la foi. La foi, c'est quelque chose de très important, mais la foi, Dieu il nous a créé quand même avec une tête, avec un cœur, il faut comprendre. Donc, alors, c'est vrai que la foi, elle est là, si on peut dire comme ça, que là où il n'y a pas la compréhension, il y a la foi, et toujours, la foi, elle est surtout là où il y a la compréhension, parce que si j'ai la compréhension, je ne crois pas. Mais quand même, la base, c'est la foi, mais dès que j'ai la possibilité d'utiliser, de comprendre, il faut que je comprenne. C'est comme ça que ça marche. Le judaïsme, il faut comprendre profondément. À ce moment-là, la foi, elle monte de niveau. Ça veut dire qu'il y a toujours ce que je ne comprends pas. Donc, alors, je reste avec ma foi. Et ce que j'ai compris, d'un coup, ça devient quelque chose que j'ai intériorisé. Alors, quelque part, c'est ça l'idée qui a été développée par le monde chassidique. Et il faut savoir amener toutes ces grandes idées, même la foi, qu'elle ne reste pas quelque chose de flou, qu'elle reste quelque chose de compréhensible. Effectivement, ce rabbi, il a développé beaucoup la chassidoute, mais cette fois-ci, la chassidoute pour tout le monde. Au début, ce n'était pas vraiment pour tout le monde, mais c'était déjà ouvert pour beaucoup de monde. Et il a créé beaucoup de livres, mais surtout le livre d'Etania qui explique beaucoup de choses basiques, mais il explique qui nous sommes, qu'est-ce que c'est l'âme. Parce que finalement, l'âme, c'est quelque chose qu'on peut expliquer au niveau scientifique. Il explique des mots scientifiques, qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est la volonté, qu'est-ce que c'est l'intelligence. Il y a bien sûr que la science, il parle, mais il va au-delà. Et il explique des choses. Et aujourd'hui, depuis quelques décennies, il y a beaucoup scientifiques qui utilisent le Tania pour comprendre cette chose. En tout cas, on est dans cette période où les deux grands luminaires ont fait l'anniversaire de ces grands luminaires, qu'ils ont rajouté une lumière dans notre vie. Le Baal Shem Tov, d'une façon plus générale, la foi, sans beaucoup de compréhension, ça veut dire pas encore la compréhension, ensuite il arrive Admor HaZaken, comme on l'appelle, le premier rabbi de Chabad, que lui, il a rajouté de la compréhension, pas seulement qu'il a rajouté, il a donné une ouverture énorme vers la compréhension, hein, qu'après lui, il y avait les autres rabbins de Chabad qu'ils ont développé, très profond d'une part, mais accessible d'une autre part, et c'est accessible aujourd'hui, vous êtes invité d'étudier, mais on ne peut pas tout étudier, ce n'est pas un livre de roman, c'est profond, donc il faut, mais il y a une grande richesse, donc c'est une façon d'amener, de recevoir, d'intégrer notre intérieur, notre foi, qui d'une part elle est intérieure, mais d'une autre part elle est plutôt autour de nous, et le faire quelque chose, l'installer en nous, que ce soit quelque chose de profond. Pour terminer, on est quand même 2 semaines de Rosh Hashanah, dans 2 semaines, il me semble que c'est le 23 et le 24, mardi et mercredi, ça va être le début de l'année. On a un exemple de quelque chose de ce qu'on a parlé tout à l'heure, que d'une part, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Il y a beaucoup des idées très spirituelles. Et qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et pourquoi Rosh Hashanah? Il y a des idées qui sont plus proches des... Il y a des actes qu'on fait qui sont plus proches des idées. On mange des choses douces pour que l'année soit douce. Mais il y a des choses qu'un acte, ça c'est les choses principales que dans la Torah il est marqué qu'il faut sonner le shofar. La sonnerie du shofar, c'est un acte qui prend quelques minutes. Mais cet acte, elle n'est pas très compréhensible. Bien sûr qu'il y a, vous allez certainement écouter beaucoup de significations. Il y a Rabbi Saadia Gaon, il me semble, c'était dans la période, il y a plus que 1000 ans, et qu'il a donné 100 significations au shofar. Mais il y en a beaucoup, il y a des significations magnifiques. Et pourtant, après toutes ces significations, il faut faire l'acte. Celui qui a fait l'acte, il a fait les choses, celui qui non. Alors, c'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut s'organiser pour pouvoir écouter ce shofar. Donc, ce shofar, que c'est un acte, que, ou peut-être on va parler la semaine prochaine un petit peu plus de cet acte, ce shofar, il représente un monde spirituel derrière lui, des idées spirituelles, mais cet acte va passer par un acte très simple. Ça veut dire que ces idées spirituelles vont passer par un acte très simple. Donc, vous êtes invité à vous organiser, aller dans les synagogues les mardis et les mercredis. C'est vrai que c'est mardi et mercredi, et ce n'est pas un jour facile, mais quand même, on peut s'organiser soit dans les heures de la synagogue. La synagogue de Dijon, c'est vers 10h30 ou plus tard. En Beit Chabad, ça va être vers midi ou plus tard. Et on va refaire vers le soir, vous pouvez nous contacter. En tout cas, c'est le moment de vous souhaiter une très bonne et douce année. Et une année remplie de bonnes choses, bien sûr, une année de paix, une année de Mashiach. Merci pour votre écoute.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.